France Inter. Hélène Roussel. Le 6-9.
Avec elle, nous allons parler de vaccination, de passe sanitaire, de la situation épidémique, de celle aussi dans les hôpitaux. On vous attend, vous et vos questions, chers auditeurs, 01 45 24 7000. Karine Lacombe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Alors, vous êtes rentrée de vacances lundi, je crois. Dans quel état avez-vous retrouvé votre service ?
Mais écoutez, pas si mal. Alors, on avait préparé les choses. Hein. Ça fait un an et demi, de toute façon, qu'on est obligé de se réinventer quasi au quotidien. Il faut savoir que juste avant, donc fin juillet, on a repris les cellules de crise que l'on avait interrompues pendant tout le mois de juillet grâce à la meilleure situation épidémique. Et puis, la reprise des contaminations à cause de ce variant Delta qui est extrêmement contagieux et la reprise des hospitalisations a fait qu'on a réinstauré les cellules de crise. Je dirais pas que pour l'instant, l'hôpital est en crise. C'est vrai qu'on avait assez peur pour le mois d'août parce que beaucoup de personnel soignant partent en vacances, prennent un repos bien mérité après ces nombreux mois d'investissement. Et bien sûr, on est obligé de fermer des unités, que ce soit en médecine ou en réanimation. Et donc, on est assez vigilant, on va dire, sur l'évolution de la situation épidémique.
Alors, si Paris s'est en partie vidé hein, pour les vacances, qui explique sans doute d'ailleurs votre constat, ailleurs, en bord de mer, c'est tout l'inverse. Alors, la Guadeloupe reconfinée, le plomb blanc déclenché en Corse, en Occitanie, en PACA. Sur le plan national, les hospitalisations augmentent, plus de 8000 à ce jour. Des chiffres qu'on n'avait pas vus quand même depuis fin mai. Comment expliquer cette quatrième vague, Karine Lacombe, alors que plus de la moitié des Français aujourd'hui est doublement vaccinée ?
Bien, la quatrième vague de contamination s'explique parce que à cause de la situation sanitaire internationale qui n'est pas encore sous contrôle. Hein. On a eu l'émergence de ce fameux variant Delta qui est extrêmement contagieux, hein, qui a acquis des capacités de contamination extrêmement élevées en circulant dans une population qui n'était pas vaccinée. Et donc le nombre de contaminations est reparti à la hausse. L'espoir qu'on a malgré tout, malgré l'émergence de cette nouvelle souche virale, c'est que bien qu'il soit extrêmement contaminant, on arrive à maîtriser la diffusion par la vaccination, et en particulier la vaccination permet de diminuer les hospitalisations et le risque de décès. Alors ça, c'est l'effet, l'aspect positif de cette quatrième vague.
À ce propos, le vaccin protège. Alors, les études se suivent, ne se ressemblent pas. La toute dernière en date vient d'Angleterre. Elle protège à moitié seulement contre l'infection, à 60% contre les symptômes. On a besoin de pédagogie ce matin, Karine Lacombe. Une question très concrète. Est-ce qu'il y a des personnes doublement vaccinées en réanimation aujourd'hui ?
Alors, il y a des personnes doublement vaccinées en réanimation qui ont un profil qui est constant dans tous les services de réanimation. C'est que ce sont des personnes âgées avec des comorbidités, donc elles décompensent ces comorbidités. Et puis, ce sont des personnes immunodéprimées qui ont été doublement, voire triplement vaccinées, qui malheureusement n'ont pas monté de défense immunitaire.
Alors justement, pour revenir sur ces chiffres de l'hôpital, 8000, dont plus d'un millier en réanimation, on en parlait hein, de les réanimations. Votre confrère de Garches disait hier qu'il observait un rajeunissement des patients. Certains ont à peine la trentaine, justement ne sont pas vaccinés et n'ont pas de comorbidité. C'est assez inquiétant. Est-ce que ça veut dire que le Delta est aussi contagieux que dangereux pour certaines personnes qui étaient jusqu'ici plutôt épargnées ?
Alors effectivement, mon confrère a tout à fait raison. Quand on reprend les données de Santé publique France, la médiane en âge des personnes en réanimation est inférieure à 60 ans. Elle est entre 57 et 59 ans. Donc on voit bien qu'on a un changement de profil des personnes qui arrivent en réanimation. On n'est plus du tout dans ce qui se passait lors de la première ou même de la deuxième vague. Et ce rajeunissement de la population s'explique en fait par le fait que la vaccination des personnes âgées a très bien fonctionné. Et celle-ci, même si certaines, un tout petit nombre se retrouvent en réanimation, la très grosse majorité, heureusement, est protégée par la vaccination. Et c'est parmi les personnes qui ne sont pas vaccinées ou pas complètement vaccinées que l'on retrouve celles qui se retrouvent en réanimation.
Y compris donc des jeunes qui, pour la plupart, ne développaient pas jusqu'ici de symptômes graves.
Absolument, tout à fait.
Il faut vacciner les plus de 12 ans, absolument.
Absolument. Alors pour plusieurs raisons, pour des raisons qui relèvent de la protection globale, de la protection de la population, mais également pour des raisons individuelles. Pour les raisons individuelles, c'est que il y a malgré tout chez les 12-17 ans des enfants qui font des formes graves de Covid-19, hein, qu'on appelle les fameux PIMS, des syndromes qui associe enfin qui associe plusieurs symptômes avec des décompensations d'organes qui peuvent conduire au décès, et puis surtout ben ces jeunes peuvent avoir des Covid longs. Et on a de plus en plus hein, d'adolescents qui présentent des Covid longs. Et puis sur le plan plus global, c'est une population dans laquelle le virus circule énormément et qui donc vont contaminer leur environnement, en particulier les parents ou les grands-parents qui ne sont pas vaccinés.
Rassurez-nous, ça reste des cas minoritaires quand même.
Ça reste des cas, oui, bien sûr, heureusement, ça reste des cas minoritaires. Mais sur le plan de la balance bénéfice-risque, cette balance est fortement en faveur du bénéfice.
À propos de risque, l'ARN sur des organismes en croissance, aucun risque ?
Aucun risque. Il faut vraiment revenir sur ce sujet de l'ARN messager. Il faut savoir que le vaccin ARN messager n'a pas d'adjuvant et que l'ARN messager disparaît en quelques heures une fois qu'il a porté la carte d'identité du virus à l'intérieur du corps humain qui va se mettre à fabriquer des anticorps. L'ARN messager ne persiste pas dans le corps humain au-delà de quelques heures. Il n'y a donc aucun risque d'effet secondaire tardif au bout de plusieurs mois ou plusieurs années.
On va élargir la question, Karine Lacombe. Est-ce que vous avez changé d'avis ? Est-ce qu'il faut rendre le vaccin obligatoire pour tous?
Alors c'est une très bonne question. C'est vrai que le pass sanitaire induit des obligations qui sont extrêmement difficiles à suivre dans la vie au quotidien. Le pass sanitaire qui n'est pas simplement la vaccination, hein, mais également le dépistage régulier. C'est vrai que passer par une obligation vaccinale pourrait permettre de résoudre le problème. Le problème de l'obligation vaccinale, c'est son application. Dans une population générale, comment rendre l'obligation contrôler l'obligation vaccinale? On a des vaccins obligatoires en France, mais ce sont des vaccins que l'on administre pendant l'enfance parce que on a un moyen facile.
Pour les enfants.
Exactement, on a un moyen facile de contrôler puisque ça permet d'aller à l'école. Mais quand on est adulte, c'est beaucoup plus difficile de contrôler une obligation vaccinale généralisée. On le fait dans des populations bien ciblées, par exemple les soignants. On a une obligation vaccinale vis-à-vis de certains agents pathogènes parce qu'on peut contrôler l'accès au travail. Dans la population générale, ça me semblerait une mesure extrêmement difficile à mettre en place.
Au-delà de la difficulté, vous avez changé d'avis à cause de la situation aussi ?
Par rapport à l'obligation vaccinale, alors c'est vrai que la situation pandémique nous impose de faire des choix de société, des choix de société de protection de la société, et le vaccin en fait partie. Donc évidemment, l'obligation vaccinale est quelque chose qui doit se discuter si jamais, malgré le pass sanitaire, on n'arrive pas à contenir la pandémie.
On parlait de l'hôpital et du vaccin obligatoire pour les soignants à partir du 15 septembre. Ça continue de faire débat, on le voit avec l'appel à la grève illimitée lancé par le syndicat Sud dans les hôpitaux depuis hier. Karine Lacombe, est-ce que c'est une source de tension toujours dans les services, dans le vôtre par exemple ?
Alors dans mon service, non, puisque la quasi-totalité des personnes sont vaccinées. On a fait énormément de pédagogie et ce sont vraiment les personnes de terrain comme nos cadres de santé qui sont en première ligne pour ces efforts de pédagogie, et on voit que ça porte ses fruits parce qu'on n'était pas du tout à 100% de vaccination au printemps, alors que la possibilité de se vacciner existait à l'hôpital depuis le mois de
janvier. Oui, les soignants étaient parmi les premiers bénéficiaires.
Donc vraiment la pédagogie et le travail de terrain est fondamental. Donc je dirais que les tensions se lèvent petit à petit. Après, ce qui va être très compliqué et ce qui revient vraiment sur le devant de la scène, c'est le pass sanitaire et l'application du pass sanitaire, qui est un peu différente de l'acceptation de la vaccination, induit des tensions à l'hôpital, et beaucoup entre les médecins d'ailleurs et le personnel soignant hors médecin.
Oui, parce que
et
le pass sanitaire, si le Conseil constitutionnel donne son feu vert tout à l'heure, ce pass sanitaire, comme on l'a dit, on le sait, va concerner les restos, les trains, mais aussi l'entrée à l'hôpital hors urgence, et ça pose un problème.
Alors ça pose un problème. Nous soignants sommes évidemment opposés à ce que l'accès aux soins soit conditionné au pass sanitaire, que l'accès aux soins se fasse en urgence ou pas. On donne par exemple on a une très grande activité de médecine ambulatoire. Médecine ambulatoire, vous avez une pathologie chronique, vous venez une ou deux fois par an à l'hôpital pour le suivi de votre pathologie chronique. on ne peut pas demander, exiger le pass sanitaire. Ces personnes qui viennent en consultation, elles ne viennent pas en urgence, mais elles viennent dans le cadre de l'accès aux soins qui doit être égalitaire pour tous.
Donc ça, ça doit être retoqué par un vrai message, vous pensez ?
Je pense que ça ne pourra pas être accepté par le Conseil constitutionnel, parce que on ne peut pas, c'est vraiment un refus de soins, ça s'apparenterait pour nous à un refus de soins.
L'infectiologue Karine Lacombe, on va passer au standard, on va faire un petit tour au standard, parce que comme je vous le disais, il y a beaucoup d'auditeurs, et nous accueillons Béatrice. Bonjour Béatrice.
Oui, bienvenue. Bonjour France Inter. Voilà, je voulais poser une question à votre interlocutrice. Je voulais savoir ce qu'il était prévu pour les personnes qui ne pouvaient pas être vaccinées.
Vous faites partie de ces gens-là, Béatrice. Pourquoi ? Pourquoi vous ne pouvez pas être vaccinée ?
J'ai eu une sclérose en plaques après une vaccination. Mon fils a fait une encéphalite après une vaccination. Et j'ai un cousin aussi qui a fait une encéphalite après une vaccination.
Béatrice, on a entendu votre question, la réponse de Karine Lacombe.
Alors, il n'y a aucune contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 en dehors de quelques cas d'allergie extrêmement rares. Donc, si jamais il est le médecin de cette auditrice,
Béatrice, juge, qui nous vient de Fabregue,
juge que le vaccin est contre-indiqué, il va falloir qu'il fasse une contre-indication au vaccin. Voilà.
Et dans ces cas-là, ça peut intégrer le pass sanitaire ?
Et ça peut lui donner accès au pass sanitaire, tout à fait.
Et que pensez-vous ?
Donc c'est son médecin qui fera la démarche.
Et cette liaison entre la sclérose en plaques, l'encéphalite dont parlait Béatrice avec des vaccins ?
Alors pour la sclérose en plaques, il n'y a pas de lien entre la vaccination et la sclérose en plaques. Alors peut-être que cette auditrice parle de ce qui s'est dit pendant de nombreuses années, enfin de ce qui a été véhiculé entre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Il est absolument clair sur le plan épidémiologique et médical qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Ensuite, pour le reste, c'est difficile de savoir exactement... le lien entre encéphalite et vaccination, les vaccins dans leur n'entraînent pas ce type d'effet secondaire.
Retour au standard avec Françoise. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Vous nous appelez de Sœur. Où est-ce que ça se situe exactement ?
En Côte d'Or.
En Côte d'Or. Bienvenue Françoise sur France Inter. Nous vous écoutons.
Je vous remercie. Bonjour à tous. Voilà ma question. Je voulais savoir. Est-ce qu'avec les personnes qui sont doublement vaccinées contre la Covid, qui ont respecté les délais et qui font quand même la maladie, est-ce que ce n'est pas courir le risque de donner au virus une nouvelle mutation parce qu'il a été capable de traverser les barrières de l'immunité qui lui étaient imposées par les vaccins ?
Merci pour cette question, Françoise. Est-ce que le vaccin peut développer des mutations du virus, Karine Lacombe ?
Non, ce qui entraîne des mutations du virus, c'est un virus qui circule librement à un niveau extrêmement élevé dans une population native. L'intérêt du vaccin, alors effectivement, et vous l'avez dit en introduction tout à l'heure, le vaccin contre la Covid-19 ne protège pas à 100% des transmissions. Il y a une diminution importante de la transmission, mais cette diminution n'est pas de 100%. Donc non, effectivement, ce n'est pas le vaccin lui-même qui va pousser le virus à muter, absolument.
Voilà, qui devrait peut-être vous rassurer. Dominique nous appelle de Toulouse. Bonjour Dominique, bienvenue.
Oui, bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous.
On vous écoute Dominique.
J'aurais voulu demander à Madame Lacombe qui a rappelé que l'évolution de l'épidémie en France dépendait de l'importance du niveau des contaminations dans le monde, ce qu'elle pensait de la levée des brevets sur les vaccins.
Merci Dominique, on peut rappeler quand même que Pfizer et Moderna ont fait monter leur prix, en tout cas pour l'Europe, le vaccin va donc coûter plus cher. Pourquoi est-ce qu'on ne lève pas les brevets ?
Alors c'est une très bonne question et on a été très nombreux à signer une tribune qui est parue dans les médias il y a quelques semaines à ce propos. Il faut effectivement lever les brevets pour que ces brevets puissent être utilisés, enfin pour que la technologie de l'ARN messager puisse être utilisée par des fabricants de génériques de façon à ce qu'on fabrique des vaccins beaucoup moins chers. Parce qu'on n'aurait pas de redevances à donner aux laboratoires qui ont mis au point ces vaccins. C'est vrai que c'est, je pense, une vraie mesure de santé publique. Hein. On l'a par exemple beaucoup prôné pour les antirétroviraux dans le domaine du VIH, également pour l'hépatite C. Et dans une pandémie avec une ampleur comme celle que l'on connaît avec la Covid-19, c'est certainement un des leviers très importants. Ainsi que le transfert de compétences pour aider des laboratoires de génériques à fabriquer ces vaccins à ARN messager. Donc c'est un point extrêmement important.
Karine Lacombe, on va poursuivre l'exercice. Nous avons du monde. Bonjour Nicole, vous êtes sur France Inter. Bonjour. Vous nous appelez du Jura, je crois.
Oui, du Jura de Dole. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, je voulais vous poser la question suivante. Dans les vaccins traditionnels, on nous faisait des rappels tous les 5 ans. Et je vois que là, on s'oriente petit à petit à faire une troisième vaccination au bout de 6 mois. Donc je me posais franchement l'efficacité du vaccin dans la durée de production des anticorps. Voilà.
Alors en fait, ça dépend.
Merci Nicole pour cette question, Karine Lacombe.
Oui, ça dépend.
Est-ce qu'il faut
vraiment
cette troisième dose ? Je peux rappeler quand même que l'Allemagne et l'Angleterre déjà le préconisent pour les personnes vulnérables.
Donc ça dépend vraiment du type de vaccin. Il y a des vaccins qu'on fait tous les ans, comme le vaccin de la grippe. Il y a des vaccins qu'on va faire tous les 5 ans, puis des vaccins qu'on ne refait pas. Donc ça dépend de l'agent pathogène, ça dépend de la maladie, ça dépend du type de vaccin, puisqu'il y a plusieurs sortes de vaccins qui existent dans le monde. Donc c'est difficile, quand on a surtout une nouvelle maladie, de savoir exactement à partir de quel moment il va falloir faire des rappels. Donc ça fait partie de la recherche, et effectivement certains pays en Europe préconisent déjà une troisième dose. Alors ils préconisent une troisième dose principalement sur des résultats d'études in vitro, c'est-à-dire pas des données collectées au niveau de la population, mais dans ces études qui ont été faites à partir de populations vaccinées, on commence à voir une diminution assez rapide du taux d'anticorps chez les personnes âgées et bien sûr chez les personnes immunodéprimées. Donc c'est pour ça que l'Angleterre ou l'Allemagne ont pris la décision de faire cette troisième dose chez les personnes âgées. Chez les personnes immunodéprimées, on l'a fait déjà en France. On attend pour la fin du mois d'août l'avis de la Haute Autorité de Santé qui préconisera peut-être une troisième dose chez les personnes âgées en particulier.
Donc
et pas chez les jeunes, parce qu'il semblerait que chez les jeunes,
le vaccin fonctionne plus longtemps.
Il fonctionne plus longtemps, tout à fait.
Nous avons un témoignage sur l'appli France Inter, une question qui revient beaucoup en ce moment dans ce qu'on peut lire sur les réseaux ou même de ce qu'on peut entendre. On lit de plus en plus que le vaccin, nous dit Lila, a un impact sur le cycle menstruel des femmes plutôt jeunes. Est-ce que c'est une vraie inquiétude à avoir ?
C'est vrai que c'est une question que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux et dans les médias. Toute activité immunitaire peut entraîner une perturbation légère et passagère, sans conséquence à court, moyen ou long terme, du cycle menstruel. La Covid elle-même, la maladie elle-même, peut entraîner une perturbation du cycle. Donc franchement, c'est un épiphénomène, absolument aucune inquiétude.
Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, assurait cette semaine qu'on allait atteindre l'immunité collective avec 90% des plus de 12 ans vaccinés d'ici l'automne. On entend beaucoup parler de cette immunité collective depuis plus d'un an et à chaque fois on a l'impression qu'on recule le curseur. Est-ce qu'on va y arriver un jour ?
Oui, on va y arriver un jour. De toute façon, il faut pas se faire d'illusions avec un variant aussi contagieux que le Delta. En France, soit on sera vacciné, soit on aura été malade. Il y aura personne qui restera complètement naïf ou de vaccination ou de maladie. Donc, quelque part, par la force des choses, on va tous acquérir des anticorps. Le problème de l'acquisition des anticorps par la maladie, c'est que ce ne sont pas des anticorps qui sont pérennes. En fait, la plupart du temps, on va développer des anticorps, puis au bout de quelques temps, les anticorps neutralisants vont disparaître et donc on peut se réinfecter. Avec la vaccination, 2 doses vaccinales, éventuellement une 3e dose chez les plus fragiles, ou encore avoir été malade plus une dose de vaccin fait monter une réponse anticorps qui est beaucoup plus importante et surtout qui persiste dans le temps, qui est plus efficace. La vaccination reste extrêmement importante pour obtenir cette couverture vaccinale immunité collective.
Encore un témoignage sur l'appli de France Inter qui pose justement la question de ces anticorps et peut-être aussi de quand on se fait vacciner alors qu'on a peut-être contracté la maladie. J'ai été vacciné 2 fois, nous dit Gilles, et vient de faire un épisode avec plusieurs symptômes concordants, des fièvres, des courbatures, des maux de tête. Est-ce que c'est utile qu'il se fasse dépister ?
Ah, c'est absolument indispensable pour plusieurs raisons. Donc déjà pour une raison personnelle, parce que s'il est positif, il va falloir qu'il s'isole pendant 10 à 14 jours en fonction de ses propres caractéristiques, parce qu'il va autrement participer à la chaîne de contamination. Et puis, c'est aussi important d'un point de vue épidémiologique pour nous, parce que on verra quel type de virus il porte, en particulier s'il a des mutations, si c'est une souche Delta ou éventuellement une autre souche qui pourrait émerger. Et donc, c'est extrêmement important, bien sûr.
Autre témoignage, Mélanie. Je suis enceinte d'un mois, nous dit-elle. Au départ, la vaccination était proscrite et puis ensuite recommandée seulement pour le deuxième trimestre. Elle est un peu perdue, Mélanie. Est-ce qu'il y a un risque pour son bébé? Elle a beaucoup de difficultés à tomber enceinte. Elle a eu beaucoup de difficultés, hein. Elle est tombée enceinte via PMA. Donc évidemment, on comprend son angoisse et elle ne doit pas être la seule. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre, Karine Lacombe?
Alors, on peut pas dire que la vaccination était proscrite chez les femmes enceintes. En fait, quand on a un nouveau médicament ou un nouveau vaccin, on attend d'avoir des données observationnelles chez les femmes enceintes avant de le recommander. Et la balance bénéfice-risque actuellement est vraiment en faveur de la vaccination, parce qu'on a vu des cas très graves de Covid chez des femmes enceintes, en particulier au troisième trimestre, et de Covid néonatal chez le bébé. Donc il est
indispensable. Et les impacts du Covid sur un bébé ?
Sur un bébé qui vient de naître, eh bien, le bébé peut passer en réanimation. Donc non, la balance bénéfice-risque est largement en faveur du vaccin.
On regarde beaucoup l'Angleterre, qui préfigure souvent ce que sera l'épidémie en France. Le pic là-bas, c'était le 17 juillet, pas si longtemps que ça, hein, 54 000 cas. Au 1er août, il n'y en a plus que 24 000. On voit que les chiffres de contamination ont chuté de façon spectaculaire. Il y a une explication?
Oh ben, l'explication, c'est la couverture vaccinale. Parce qu'à un moment donné, quand une majorité de la population est vaccinée, le pool de personnes qui est susceptible d'attraper la maladie, donc non vaccinées, se réduit de plus en plus. Donc c'est peut-être ce qui va se passer en France.
Oui, parce qu'on a vu les hospitalisations qui grimpent. En revanche, dans certains endroits, les nombres de cas de contamination baissent ou en tout cas stagnent. C'est un peu d'espoir ce matin, ça, Karine Lacombe.
Oui,
la quatrième vague peut être derrière nous déjà.
Absolument. Alors la quatrième vague peut, en termes d'hospitalisation, la quatrième vague n'est certainement pas derrière nous. En revanche, le pic de cette quatrième vague, exactement, il y a tout le temps un décalage de 15 jours à 3 semaines. Le pic de la quatrième vague peut être relativement faible et contenu.
Dernière question d'auditeur. Nous accueillons Marianne. Bonjour Marianne, bienvenue.
Bonjour.
Vous nous appelez? De
Bourgogne.
De Bourgogne, vous aussi, décidément, la Côte d'Or à la côte. Bienvenue sur Inter, on écoute votre question, Marianne.
Alors, ma question, c'est d'abord une affirmation, une explication. J'ai expliqué à votre technicien que on s'est fait vacciner, mais pas enthousiaste du tout. On l'a fait presque plutôt par citoyenneté pour les autres. Bien qu'on n'ait aucune confiance dans les laboratoires qui vont faire des bénéfices incroyables, bien qu'on n'ait pas beaucoup confiance au gouvernement qui n'a pas arrêté de partir à droite.
Vous y êtes allé à reculons, Marianne. Votre question, s'il vous plaît.
Complètement. Et c'est pas une question. Je disais, si on doit... on a accepté beaucoup de choses jusqu'à présent, mais si on doit vacciner les enfants en dessous de 12 ans, là... il va y avoir une colère noire, parce que moi, rien que d'y penser, j'ai une colère noire dans la tête. Voilà, c'est tout.
Parce que les enfants, vous vous dites, ne sont pas en danger, c'est cela, qu'ils ne doivent pas se faire vacciner?
On leur colle déjà 11 vaccins, tout petits, ça c'est scandaleux, et on voudrait encore rajouter des trucs pour la grippe, ou pour quelque chose
d'accord.
Qui ne les atteint pas.
On vous a entendu, si vous voulez une réponse ou une réaction de Karine Lacombe, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Marianne. Karine Lacombe, qu'est-ce qu'on peut répondre à Marianne ce matin?
Quand on décide de vacciner des enfants, on est toujours aussi dans une discussion de bénéfice-risque. Je comprends tout à fait l'émotion de votre auditrice. Donc évidemment, la vaccination des enfants n'est jamais une décision qui se prend à la légère. Donc si un jour il est conseillé de vacciner les enfants, c'est parce qu'on aura des arguments individuels et collectifs extrêmement forts et que c'est une discussion collective nationale qui aura lieu.
Il n'en est pas question en tout cas en ce moment.
Pour l'instant, ce n'est pas sur la table.
Karine Lacombe, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Merci d'avoir répondu à nos auditeurs. Merci de nous avoir répondu et d'avoir été avec nous ce matin sur France Inter.
France Inter.